9 cm maximum, entre 7 et 9 cm.
Comme chez les faucons, finalement.
Ouais, voilà, un petit peu comme chez les faucons, le mâle est plus petit. Bah, c'est parce que la femelle doit produire les œufs, donc elle a besoin de plus d'énergie.
Comment sont les pattes ?
Les pattes sont légèrement palmées, moins palmées que des grenouilles, mais c'est quand même des bons nageurs. Par contre, ils peuvent pas sauter comme les grenouilles. Si vous voyez sur la route quelque chose qui fait un grand bond, c'est forcément une grenouille. Les crapauds, ils vont plutôt marcher doucement, donc c'est pour ça effectivement aussi qu'ils traversent moins vite la route et qu'ils sont plus sensibles à l'écrasement des voitures.
On les trouve en France, en Normandie ?
Oui, alors on les trouve en France. Alors c'est un peu particulier parce que depuis quelques années, en fait, on pensait qu'il y avait deux sous-espèces en France. Et en fait, il y a deux espèces, parce qu'ils se ressemblaient ils sont très très proches. Il y en a un qui a plus les pustules en forme de pointe. Donc lui, il s'appelle le crapaud épineux. Et l'autre s'appelle le crapaud commun. Donc on pensait que le crapaud épineux était une sous-espèce du crapaud commun. Mais finalement, avec les études génétiques, on s'est rendu compte que c'était deux espèces génétiquement différentes. Donc, et pour simplifier la chose, en Normandie, on a la présence des deux espèces. Sauf que quand elles se croisent, elles peuvent s'hybrider aussi. Donc, mais en gros, il faut couper la Normandie en trois tiers. Dans le bas du tiers, en faisant des diagonales, un petit peu des diagonales qui partent de la Manche et qui vont vers l'Orne, tu vois. Tu fais un premier tiers vers le sud-ouest, c'est du crapaud épineux. Tu remontes un petit peu jusqu'au Havre, et puis la partie de l'Orne et puis du Calvados, c'est du Galet-2. Et après, au-dessus, Seine-Maritime et l'est de l'Eure, par exemple chez nous, près d'Évreux, on a que du crapaud commun. Mais pour simplifier les choses, on reste sur une définition du crapaud.
Et en Europe ?
Et en Europe, il peut aller jusque. C'est une espèce qui est très, très commune. Donc, il va de l'Irlande jusqu'aux îles de Méditerranée. On peut le trouver en Afrique du Nord, en Asie, jusqu'au Japon. Donc, c'est vraiment une espèce très commune et c'est l'espèce qu'on rencontre le plus facilement.
Alors, moi, je ne vais pas vous parler de son habitat géographique, mais je vais vous parler de son habitat écologique. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un animal qui n'est pas tellement aquatique, c'est plutôt un animal terrestre. Et ce qu'il adore, c'est les forêts de feuillus. Donc, il se balade dans la forêt. Tant qu'il n'est pas dans sa mare, alors on verra tout à l'heure pourquoi il va dans la mare. Il a besoin d'aller dans la mare. Mais la plupart du temps, il est terrestre. Alors, il vit pas que dans les forêts, il vit aussi dans les champs, pas trop, parce que les champs, finalement, c'est un peu des déserts. Un champ de blé, c'est un désert
désertique, ouais,
effectivement. Bah ouais, mais par contre les jardins des gens en ville, on arrive à le trouver dans les parcs, on arrive partout où il y a un petit peu d'herbe et puis un petit peu de et pas trop de pesticides, quoi, et puis un petit peu d'arbres.
C'est un super allié du jardinier.
Ah, c'est un super allié. Alors là, on peut parler de nutrition. Qu'est-ce qu'il mange ? Alors il a une façon très rigolote de manger. C'est un peu comme la grenouille. Il a une langue extensible et il va choper tout ce qui passe à proximité de sa langue.
Avec une salive gluante.
Avec une salive gluante. Il prend des petits insectes, des vers de terre, il prend des choses qui ressemblent à des insectes, mais qui ne sont pas des insectes, des araignées, des cloportes, les fourmis, tout ça, mais même des escargots ou des limaces. Donc effectivement, c'est un super allié du jardinier. Alex, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de sa reproduction ?
Ouais, bah la reproduction, elle est assez complète. Comme tu le disais, ils vivaient dans la forêt, mais c'est des animaux qui n'ont pas réussi à se détacher du milieu aquatique pour leur reproduction. Donc leurs œufs et leurs larves ont besoin d'un milieu aquatique. Et pour le coup, c'est pour ça qu'il y a une migration qu'on appelle post-nuptiale.
Tu parles de migration carrément.
Ouais, c'est une migration post-nuptiale et c'est assez... Tout le dispositif qui est mis en place, c'est parce que dès qu'il y a les bonnes conditions, ils ont qu'une chose en tête, à sortie de l'hibernation, c'est d'aller se reproduire. Donc dès qu'il y a les bonnes conditions, ils vont de la forêt à la mare, et quand il y a une route au milieu, bah...
Parce qu'ils ont besoin de la mare pour se reproduire.
Parce qu'ils ont besoin de la mare pour se reproduire. Alors, il y a ce que, quand Arnaud parlait du mâle qui s'accroche à la femelle, donc ouais. Ça, on appelle ça, alors ça existe aussi chez les grenouilles, mais on appelle ça l'amplexus. Et des fois, le mâle s'accroche à la femelle, et c'est la femelle qui va le transporter jusqu'à la mare tout le long. Et en fait, les mâles sont tellement fous à cette époque-là qu'ils sont capables de s'accrocher sur tout ce qui bouge dans la mare. Et des fois, il y a la pauvre femelle, il y a tellement de mâles qui s'accrochent sur elle. Donc, c'est des animaux qui sont adaptés au milieu aquatique, mais ils peuvent aussi se noyer. Donc, des fois, la femelle, elle peut pas remonter à la surface pour prendre de l'air. Et des fois, la femelle, elle se noie carrément. Mais pourquoi il fait ça ? Bah, parce que le mâle, en fait, dès qu'il voit une femelle, c'est une fécondation externe. Donc le mâle, il faut qu'il soit là au moment où la femelle va expulser ses œufs. Avant en expulser de 2000 à 7000. Et lui, il a besoin d'être là, accroché sur la femelle. C'est au moment où elle va libérer ses œufs, il a besoin de mettre sa semence dessus pour être sûr que c'est lui le géniteur. Donc c'est pour ça que dès qu'il en voit une, il s'accroche dessus pour être sûr que ce soit lui, sa semence qui soit sur ses œufs.
Et puis Arnaud disait que c'était des fainéants, quoi. C'est un moyen pratique de transport pour aller jusqu'à la mare.
Ouais, on peut dire ça. après, au niveau de la... tétard est close au bout de 15 jours à peu près.
Alors le tétard, tu nous as pas dit ce que c'était le tétard.
Alors le tétard, c'est la larve des grenouilles et des crapauds.
Donc, ça respire comme le
non, ça a des branchies. Ouais, c'est la particularité des amphibiens, c'est que quand ils sont, c'est pour ça qu'il y a besoin d'eau pour leurs larves aussi, c'est qu'ils ont des branchies. Et après, il va y avoir une métamorphose où ils vont développer des poumons et pouvoir à ce moment-là se passer en phase terrestre. Et du coup, il y a une autre migration qui se passe, une fois que les jeunes sont transformés en petits crapauds. Alors c'est rigolo, parce que les adultes sont assez gros, mais quand les petits crapauds ils sortent de la mare, ils sont pas plus gros que la taille de votre ongle, de votre majeur, on va dire. Ça fait comme des toutes petites grenouilles noires qui vont sortir par centaines de milliers, parce que la stratégie du crapaud, c'est de faire beaucoup de petits pour qu'à la fin, il y ait quelques individus qui arrivent à l'âge adulte. Donc, ils vont pas s'occuper de leurs petits, mais ils en font plein, plein, plein pour qu'il y en ait une infime partie qui arrive à l'âge adulte. Et du coup, c'est possible de voir des centaines de petits crapauds sortir de la mare au mois de juillet, par exemple. Mais à ce moment-là, la nuit tombe plus tard. Et quand ils rejoignent la forêt, c'est toujours de nuit. Et du coup, il y a moins de circulation de route. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un dispositif comme on pourrait avoir à cette époque-là.
Ça dure combien de ça a durée de vie au crapaud ?
La durée de vie, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Puis un peu moins pour les femelles, 9 ans, entre 10 et 12 ans. Ils peuvent être matures à partir de 3-4 ans.
Ah, ils peuvent se reproduire à partir de 3-4 ans.
Voilà, les petits crapauds sortent, mais il faut qu'ils vont rester en phase terrestre pendant 3-4 ans avant de revenir vers la mare.
Alors là, c'est le prof de sciences nat qui va se réveiller. tu nous as dit qu'ils avaient absolument besoin d'eau. Eh bien ça, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'amnios. Ils ne font pas partie des animaux amniotiques. Alors ça vous fait penser à quoi, amniotique ? Ah ben c'est quoi l'amnios ?
C'est ce qu'il y a dans le placenta.
C'est ce qu'il y a dans le placenta, c'est ce qu'on appelle la poche des os, absolument. C'est la poche des os. Et donc, tous les mammifères, à partir des reptiles, les oiseaux, les mammifères, on a tous cette poche des os. Pour les oiseaux, c'est contenu à l'intérieur de l'œuf, et c'est ça qui nous permet de nous reproduire à l'extérieur. Mais sinon, tous les animaux, tous les vertébrés, les poissons et les amphibiens, ils ont besoin de se reproduire dans l'eau, parce qu'ils n'ont pas ce fameux amnios. Voilà, voilà, voilà.
Du coup, il y a une petite particularité sur le crapaud, quand même, tu as parlé des sorcières, mais parce qu'il a, une particularité assez sympa.
Mais oui, et puis toi, tu nous as parlé des pustules.
Ouais.
Alors, les crapauds, comme moyen de défense, ils ont du venin. Ce venin qu'ils sont capables de sécréter par leur peau, par leurs pustules, particulièrement par des petites pustules qui sont derrière leur bouche. Et alors c'est pas violent, hein, nous si on peut être un peu irrité, mais voilà. Par contre, un oiseau ou un animal, une petite souris ou un petit mammifère qui va manger un crapaud, bah il va s'en souvenir parce que il va être très irrité à cause de ce venin. Peut-être que ce crapaud là il va mourir, mais les suivants ils vont être tranquilles parce que le chat il va laisser tranquille. Et puis alors les tétards, ils ont aussi un moyen de défense assez marrant. Ils ont une sorte de gelée qui les entoure, et c'est pareil quand il y a un poisson essaye d'avaler les œufs ou les tétards, il y a cette gelée qui est pas très agréable, et du coup les poissons les laissent tranquilles. Voilà comment ils peuvent être tranquilles, quoi. Comment ils peuvent se défendre.
Et une fois qu'ils sont sortis de la mare, du coup, une fois en phase terrestre, est-ce qu'ils restent actifs toute l'année ou...
Ah ben non, oui, parce que c'est d'autres animaux qui ont une particularité. C'est ce qu'on appelle des animaux à sang froid. C'est-à-dire qu'ils ont... Nous, les mammifères, les humains, comme les oiseaux, on a une température qui est constante. On dépense de l'énergie pour garder notre température, même quand il fait froid. Bah, c'est pas le cas des insectes et c'est pas le cas des amphibiens. Les amphibiens, ils dépendent de la température extérieure. Donc, quand il fait froid, eh ben, ils cherchent un petit coin tranquille sous une pierre, dans une souche, pour pouvoir passer l'hiver tranquille. Tant qu'il fait froid, ils peuvent pas bouger rapidement et donc ils vont rester tranquilles. Ils hibernent en quelque sorte. Et alors, ces petites cachettes, c'est aussi les petites cachettes qu'ils vont utiliser quand il fait beau, quand il fait en été. Ils vont utiliser ces petites cachettes le jour et puis sortir plutôt la nuit.
Ouais, c'est plutôt des animaux nocturnes qui sortent quand il y a de l'humidité et quand il fait nuit, ouais, effectivement.
Voilà. Tu peux nous parler de son statut, Alex ?
Oui, bah en fait, tous les amphibiens sont protégés en France métropolitaine, sauf les espèces exotiques envahissantes. Mais voilà, les amphibiens qu'on trouve naturellement dans notre région sont protégés par la loi. Alors, il y a quelques exceptions encore de pouvoir pêcher quelques espèces de grenouilles, mais ça reste à la marge et c'est très encadré. Donc, retenez que tous les amphibiens sont protégés et puis arrêtez de manger des cuisses de grenouilles. C'est dépassé. Du coup, il a quand même quelques prédateurs, si je peux parler des prédateurs, à part les roues de voiture, malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a la couleuvre helvétique, qui est une petite couleuvre qui est spécialisée dans les milieux aquatiques, donc qui va pouvoir manger des grenouilles et des fois des jeunes crapauds, des choses comme ça. Le héron cendré, le hérisson, le putois. Alors, le putois et la loutre, ils sont assez malins, parce qu'en fait, on a dit la peau du crapaud est toxique, et eux, ils vont commencer par le manger par le ventre, et ils vont retourner le crapaud pour ne pas toucher sa peau et manger l'intérieur du crapaud. Donc c'est des animaux qui sont liés aussi au milieu naturel aquatique, donc c'est des prédateurs naturels, donc c'est pas eux qui mettent en danger la population.
Eh oui, le plus grand prédateur c'est quand même la voiture et l'homme.
C'est ça, avec alors, l'homme et puis surtout ce qui va impacter c'est le mode de vie de l'homme, en fait tout ce qui est exploitation forestière, mais avec des gros engins lourds, en fait pendant l'hiver on va ruiner les sols et du coup écraser des crapauds, le fait qu'il y ait de plus en plus de routes, etc., le fait qu'on bouge des mares, il y a plein de mares qui ont disparu pendant des années.
Et les pesticides.
Et les pesticides.
Oui, monsieur Duplomb, les grenouilles sont en danger à cause de tous ces trucs-là. Parce qu'ils ont aussi une particularité. On a vu que les adultes se respiraient grâce à des poumons. Ils sont obligés de respirer dans l'air. Les têtards respirent grâce à des branchies, mais ils ont un autre mode de respiration, aussi bien les têtards que les adultes.
Ils peuvent respirer par la peau, ouais.
Ils peuvent respirer par la peau.
Il y a un échange gazeux qui se passe aussi par la peau, qui permet en fait de rester plus longtemps sous l'eau. Ils peuvent pas, ils peuvent se noyer, mais ils sont capables de faire des grosses apnées grâce à ces échanges gazeux qui peuvent se passer
par
la peau.
Et du coup, malheureusement pour eux, cette peau, elle est très poreuse, elle laisse passer facilement des substances chimiques, d'où leur sensibilité aux pesticides.
Donc c'est très important si vous voulez essayer d'aider un crapaud ou une grenouille à traverser la route, ou si vous voulez la montrer à vos enfants et tout ça. Alors normalement c'est exceptionnel parce que c'est des espèces protégées, normalement on n'a pas le droit de les manipuler, mais mettez toujours soit des gants ou surtout ayez les mains mouillées, en fait, pour pas que vous asséchiez la muqueuse qu'il y a sur la peau des amphibiens. Ça peut en fait les empêcher à terme, ça peut provoquer des problèmes sur leur peau. Et bah pour finir ce petit reportage sur l'espèce du mois, je vous propose d'écouter son chant. Il a un petit grognement assez sympathique.
Dis donc, Alex, t'as pas été interviewé quelqu'un qui va nous parler du même problème ?
Eh ben justement, oui, j'ai été interviewé Benjamin Courteil et puis Myriam Duteil du département de l'Eure qui ont mis en place un réseau départemental amphibien.
Ça se passe près de chez vous ?
Aujourd'hui, je suis avec Benjamin du département qui est responsable du réseau départemental amphibien. Salut !
Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Donc tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un petit peu d'être référent RDA au département?
Alors le référent réseau départemental amphibien, il va piloter un peu l'ensemble du réseau, qui est un réseau de bénévoles qui ramassent des crapauds pour les faire traverser la route, histoire d'éviter qu'ils se fassent écraser. Donc c'est un réseau qui est né en 2006 sur Fatouville-Grétin. On a eu un premier site de signalement d'écrasement d'amphibiens. Sur une départementale, et une équipe de bénévoles sur place était motivée et moteur pour ramasser ces amphibiens pour les faire traverser en toute sécurité. Donc le département s'est mobilisé pour poser un dispositif. Donc c'est tout simple, hein, c'est une bâche le long de la route dans le sens de la migration, c'est-à-dire que les amphibiens à la sortie de l'hiver vont sortir de leur zone d'hivernage pour aller sur leur site de reproduction. Et quand on a une route entre les deux, il peut y avoir de la mortalité par écrasement. C'est à la tombée de la nuit, quand la météo est favorable, donc une météo un peu douce autour de 10 degrés, à partir de 10 degrés où on a de la pluie, donc une humidité, les amphibiens ils aiment bien ça. Donc les amphibiens sortent à la tombée de la nuit, quand les gens rentrent du travail, et pour le coup il peut y avoir une forte mortalité sur certains axes. Le crapaud commun, il a la particularité de migrer en masse, donc de faire des pics migratoires et de sortir tout d'un coup quand c'est favorable. Donc on a des gros impacts sur ces populations d'amphibiens. Quand la météo est favorable, on a des sites où on avait énormément d'écrasements.
Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur les dispositifs?
On a une bâche, là maintenant on est passé sur des filets un peu maillés, qui est tendue le long de la route, donc tendue avec des piquets réguliers. Quand on peut, et le site s'y prête, on met des sauts. Tous les 10 mètres à peu près. C'est-à-dire que les amphibiens, quand ils vont descendre de leur site d'hivernage, ils vont se heurter à la bâche avant d'arriver sur la route. Ils vont longer la bâche et au bout d'un moment tomber dans un seau. Et c'est là que les bénévoles interviennent pour récupérer les amphibiens dans les seaux et les faire traverser en toute sécurité pour les déposer auprès de leur site de reproduction, qui est en général une mare, un étang.
D'accord, donc du coup, il y a des bénévoles qui doivent passer, j'imagine, tous les jours pour faire passer les crapauds.
Voilà, tous les jours. Donc ça dépend des sites. Certains sites, les bénévoles passent le matin parce qu'on n'a pas forcément des effectifs monstrueux et donc ça suffit. Ils passent le matin pour ramasser les amphibiens et les faire traverser. Et d'autres sites où on a des gros effectifs, les bénévoles se relaient et passent le soir pour ramasser une première vague et repassent le matin pour vérifier si jamais il y a d'autres crapauds qui se sont piégés dans les seaux.
Quand tu dis des populations monstrueuses, ça va de quelques dizaines à...
Voilà, ça va de quelques dizaines. Donc quand on a quelques dizaines, on n'équipe pas forcément le site. Il faut vraiment qu'il y ait un impact sur une grosse population et qu'on constate aussi une forte mortalité. On a différents sites, les sites principaux, donc, qui sont des sites où on pose des bâches. Donc on en a 5 en 2026. On a les sites secondaires et les sites en observation. Donc les sites en observation, c'est les sites qui ont été signalés et qu'on doit évaluer, voir si il y a une forte mortalité, s'il y a un enjeu sur la population d'amphibiens. Si c'est le cas, au bout de 2-3 ans d'analyse, on va pouvoir, comme c'est cyclique les amphibiens, on n'a pas forcément les mêmes chiffres tous les ans, au bout de 2-3 ans, on va analyser le site et on va dire, oui, là, ça vaut le coup de mettre une bâche pour préserver la population. Et si jamais c'est un site où on ne constate pas énormément de mortalité, on va le classer en site secondaire, c'est-à-dire que c'est un site qu'on garde à l'œil, mais qui ne nécessite pas forcément d'intervention de notre part pour préserver la population d'amphibiens.
Ok. Et du coup, les sites principaux, ça peut être...
On a des sites où on a eu des records à plus de 6000 amphibiens, en fait.
Et le pourcentage de survie par rapport au site avant et après pose de bâche?
On augmente fortement. Des fois, on atteint 80% de mortalité sur certains sites. Qu'on estime, hein, parce qu'on n'a jamais la population dans son entièreté. Les bâches, des fois, on ne peut pas non plus mettre des kilomètres de bâches, donc des fois, en bout de bâche, ça passe quand même. Donc il y a un peu de mortalité.
C'est ça qui n'est pas évident. Il faut aussi trouver vraiment l'axe de passage.
L'axe migratoire bien précis pour capter le maximum et préserver le maximum. Après, effectivement, on va préserver quand même une grosse partie de la population sur l'axe migratoire et on va diminuer fortement les écrasements.
Là, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a des personnes qui voient des crapauds écrasés sur des départementales, faut pas qu'ils hésitent à nous contacter parce que éventuellement ça pourrait être un site qu'on connaît pas et qu'on pourrait
Tout à fait.
Observer et voir si ça, ça y aurait un intérêt pour préserver la population à poser une vache. Quoi.
Ouais, effectivement, bah sur vous rapprocher de Naturellement Rueilly ou de l'association Mille et un Légumes, sans problème, sur le site du département Eure en Normandie, il y a toutes les infos également. Donc pas hésiter à vous rapprocher des différents. Des différentes structures pour signaler d'éventuels, même juste si vous constatez un amphibien écrasé, c'est toujours une donnée, c'est toujours intéressant de signaler cette donnée.
Voilà, Phone Route,
c'est ce que j'allais dire, on peut la signaler sur Phone Route, qui est un site qui permet de signaler des animaux qu'on voit en bord de route, donc vivants ou écrasés, parce qu'on peut, on peut signaler les deux, mais voilà, signaler n'importe quel, et les amphibiens en font partie. Phone Route, on peut mettre tout type de faune, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, amphibiens, pour Naturellement Rueilly et le CPIE, dans le cadre du RDA, plutôt les amphibiens.
Et si, j'en profite, si vous en trouvez un dans votre jardin qui n'est pas écrasé sur la route, vous pouvez le mettre sur undragon.org. Est-ce que tu as une idée un petit peu du... Alors j'imagine que ça change d'une année sur l'autre, mais mon petit doigt me dit que 2025 c'était une très bonne année. Et combien de crapauds, d'amphibiens au total ont été sauvés à peu près?
Oui, sur 2025, on a environ, sur les 4 sites qui ont été aménagés, on avait environ 5400 amphibiens en général. Après, la majorité des amphibiens sont des crapauds communs. Petit chiffre aussi pour finir, depuis 2006, les bénévoles, donc leur travail, ont permis de quand même déplacer et sauver 115 000 amphibiens depuis le début du dispositif.
Et bah, c'est un beau travail, merci à eux. Merci Benjamin.
Merci Alexandre.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Duteil.
Myriam Duteil, vice-présidente au département en charge de la délégation, on va dire, environnement, préservation de la biodiversité, de la nature, et voilà, donc animatrice aussi du réseau départemental des amphibiens.
Très bien, et du coup, qu'est-ce qui a poussé le département à s'intéresser aux amphibiens plus particulièrement et à la migration
Alors, c'est une espèce quand même qui est protégée, donc à ce titre, voilà, elle fait partie d'un écosystème qui est absolument vital pour les Eurois et les Eurois, j'ai envie de dire l'humanité même au sens large du terme. Donc à ce titre, effectivement, on essaye de protéger au mieux ces batraciens. On est aussi en charge, alors ça paraît anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça. Nous sommes en charge, c'est une des compétences qui est celui de l'entretien des routes départementales et de la sécurisation de ces routes. Et il s'avère qu'effectivement, un trop grand nombre de nos batraciens écrasés rendent les chaussées glissantes et dangereuses. Donc à ce titre aussi, on se doit d'agir. On n'agit pas partout, évidemment, que sur certains sites. On va dire que la migration prénuptiale est très importante.
Ça marche, donc oui, effectivement, ça peut être dangereux pour la route et l'idée, c'est aussi de préserver l'espèce et peut-être de repérer les secteurs un peu accidentogènes.
Exactement, donc là, on intervient, comme je le disais, pas sur tous les sites, il faut vraiment qu'on considère que ce soit un site majeur, donc là, vraiment, il y a donc deux de nos partenaires, donc l'association Naturellement Rueilly et le CPIE de l'Eure, donc plus connu sous le nom de l'association Mille et un Légumes, donc qui est sur Beauménil, donc qui suivent en fait ces couloirs de migration, donc qui sont détectés, hein, c'est vraiment par des, ça peut être par vous et moi, hein, et on intervient que là où les couloirs de migration de ces espèces sont vraiment très très importants,
très
là
important, où il y a vraiment, et puis là où il y a de la mortalité.
Voilà, c'est ça. Là sur la commune d'Harcourt, en fait, le département a mis en place un parcours lumineux qui a vocation à faire venir de très nombreux touristes. Voilà, on a accueilli déjà plus de 55 000 visiteurs sur le site, ce qui a rendu une route un peu plus fréquentée. Les services de l'État ont voulu et souhaité qu'effectivement on protège en fait ce passage, anticiper ce petit couloir de migration, exactement. Et d'autant plus que c'était pas nécessairement un site majeur au sens où il n'y avait pas un trafic énorme, mais c'était une migration très importante puisque c'est dans la composition, enfin dans la variété en fait des batraciens qui empruntaient ce couloir de migration. On avait des espèces vraiment patrimoniales très très importantes, du triton, crêtés, enfin, il y avait des salamandres aussi, voilà, donc c'était vraiment important.
Oui, là, c'était
puisque
la diversité, bah, plus que le nombre.
C'était plus que le nombre, c'était aussi la diversité et la valeur patrimoniale de ces espèces qui sont encore plus rares et donc qui nécessitent un surcroît de protection. Une fois qu'on a dit on va s'en occuper, on va préserver, il faut mettre en place les moyens qui vont avec.
Oui, et puis ça on a vu avec Benjamin, c'est un système de bâches, moi c'est quand même contraignant, c'est ça, oui. Ça mobilise du personnel.
Ouais. Et... ça se fait aussi avec un réseau de bénévoles qui va venir tôt le matin ou tard le soir récupérer les animaux pour leur faire traverser la route et leur permettre d'aller se reproduire dans la petite mare d'à côté.
Super.
Donc voilà.
Oui, donc oui, c'est super important qu'il y ait un réseau de bénévoles aussi et ça.
Sans les bénévoles, ce serait quasiment impossible de le faire parce que les bénévoles ils interviennent on va dire presque très en amont puisque ça peut être aussi eux qui peuvent avoir détecté un passage pertinent et puis après ben voilà il faut y aller quand même tous les matins et puis cette petite saison prénuptiale elle ne dure pas que 2-3 jours.
Non et puis cette année ça a l'air parti pour être assez long.
Donc voilà, donc là voilà, il faut pouvoir mobiliser du monde pendant plus d'un mois et demi, c'est pas rien. Donc sans les bénévoles ne pourrions pas le faire non plus.
Et puis ce qu'on peut préciser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert dans les grenouilles ou les crapauds pour participer à ces actions de bénévolat, parce que c'est accessible à tous en fait.
Oui, c'est accessible à tous. En plus, c'est vraiment organisé, coordonné donc par les deux associations partenaires dont je parlais, ce qui permet aussi de sensibiliser, de donner un certain nombre de conseils extrêmement pratiques et intéressants. Donc même pour les bénévoles, c'est aussi, voilà, ils participent quand même à une aventure et ils apprennent aussi énormément de choses. Et sommes en charge des collèges et c'est aussi une cible privilégiée pour nous. Donc il y a des animations à l'occasion de cette action qui sont menées au sein de différents collèges, voilà,
pour mobiliser
les jeunes, parce que c'est à eux qu'on va revenir la lourde charge de continuer
à sauver la biodiversité.
Ouais, on compte sur eux, mais on va les aider quand même, on est là pour ça.
Super, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors maintenant, on va s'accorder une deuxième petite pause musicale avec Anne Passeo. Donc on va écouter son titre « L'écume ». À savoir aussi que vous pouvez la réécouter le 27 mai dans le cadre des festivals des Anthropocènes.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
L'océan une rediff, quoi. Se retire sur le sable, il ne reste que l'écume et ton souvenir disparaît lentement. J'attends que la marée monte, que le temps déforme ma peau. regard.